Le mystère de la Trinité peut-il éclairer le mystère de l'homme? S'il y a un mystère qui nous dépasse totalement, c'est bien celui qui est au cœur de la foi chrétienne et que nous confessons chaque fois que nous traçons sur nous le signe de la croix, en disant « Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Puisque les trois personnes divines ont des noms différents, nous devrions dire « Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit », ce qui, grammaticalement, serait plus logique. L'unicité du nom prononcé nous rappelle que nous ne croyons pas en trois dieux, comme beaucoup de musulmans se l'imaginent, mais en un seul Dieu, en trois personnes. Dieu n'est pas un triumvirat. Ce ne sont pas trois personnes qui voteraient toujours à l'unanimité les décisions à prendre. Trois personnes qui mettraient en commun leurs idées et leurs énergies. Non, elles partagent toutes les trois la même intelligence, la même volonté, la même activité, le même être. Eh bien, tout en étant insondable, ce mystère de la Trinité, c'est comme le soleil. Si on le regarde en face, il nous rend aveugles. Mais à sa lumière, nous pouvons mieux comprendre ce que vivent les êtres humains créés à son image. Voyons plutôt. Le mystère de la Trinité nous fait comprendre d'abord le caractère essentiellement relationnel de l'être humain. La première réalité que connaît un enfant, le premier pôle vers lequel se dirige sa conscience, c'est l'existence d'une autre personne. C'est même grâce à cette rencontre que la conscience d'un enfant s'éveille. Il faut qu'elle soit appelée par quelqu'un pour qu'elle puisse prendre conscience d'elle-même. La conscience humaine, dis-tu, avant de dire je. C'est parce qu'un enfant se sent regardé qu'il prend conscience d'exister lui-même comme une personne. Les premiers sourires d'un bébé sont toujours réponse au sourire qu'on lui fait. Un enfant qui n'aurait aucun contact avec d'autres êtres humains aurait une intelligence totalement bloquée. Sa capacité d'entrer en relation avec autrui ne se développerait jamais. C'est le cas, nous le savons, de ces enfants sauvages, de ces enfants qui, recueillis tout jeunes par des animaux, ont pu survivre, mais dont la conscience humaine ne s'est jamais éveillée. Ils ne peuvent pas se connaître dans une glace, ni échanger le moindre sourire avec quelqu'un. Cela montre bien que nous sommes créés par un Dieu qui n'est pas célibataire, mais dont toute la vie consiste en un échange incessant entre personnes. Oh non, nous ne sommes pas faits pour vivre seuls. Autant la solitude est une valeur quand elle est habitée, autant l'isolement, c'est-à-dire l'impression de n'avoir personne avec qui pouvoir échanger, l'isolement est quelque chose de très dur à vivre et finalement quelque chose d'inhumain, parce que nous sommes faits pour échanger. Me revient à l'esprit la réponse que faisait un jour un élève de CP. Mon professeur qui avait posé à toute la classe cette question, « Les enfants, qu'est-ce que c'est que de s'aimer les uns les autres ?» Et l'un d'eux de répondre, « Oh, mademoiselle, c'est quand on est heureux de être à deux. C'est aussi quand on est heureux de être à plusieurs, parce que c'est triste de être à tout seul. » À partir de cela, nous pouvons mieux comprendre la Trinité. La Trinité est heureuse parce qu'elle n'est absolument pas célibataire. C'est vraiment une relation de personnes qui ne cessent de s'aimer. Et le mystère de la Trinité nous fait justement comprendre l'importance que les hommes accordent à l'amour. Les hommes accordent une immense importance à la réussite de leurs relations humaines. La plupart de leurs poèmes et de leurs chansons célèbrent d'ailleurs les espoirs, les déceptions et les joies qu'ils y rencontrent. Les chrétiens en connaissent la raison. Ils sont créés à l'image d'un Dieu chez qui l'amour est une personne. L'Esprit Saint, c'est l'amour qui ne cesse de circuler entre le Père et le Fils. C'est l'admiration, le coup de foudre éternel qu'ils ne cessent d'avoir l'un pour l'autre. C'est la joie, la musique de leur amour. Le mystère de la Trinité nous fait aussi comprendre la joie que nous avons de partager avec une tierce personne l'admiration que nous avons pour quelqu'un. Quand on éprouve une grande admiration pour quelqu'un, on est heureux de n'être pas seul à l'admirer, à l'apprécier. On ne demande pas mieux que d'autres l'apprécient eux aussi. D'où la joie d'un mari de voir ses enfants admirer beaucoup son épouse, qui est aussi leur maman, et de les voir lui offrir un beau cadeau le jour de sa fête. Rien d'étonnant, il y a de cela en Dieu. Le Père n'est pas seul à aimer son Fils, il l'aime avec l'Esprit Saint. Son amour, disait Richard de Saint-Victor, est une condilectio, une dilection avec quelqu'un d'autre, un amour partagé avec quelqu'un d'autre. L'Esprit n'est pas seulement l'élan d'amour du Père vers le Fils, mais une personne avec laquelle le Père est heureux de partager l'admiration, l'extase qu'il éprouve pour son Fils. De même, c'est avec l'Esprit Saint et dans son élan que le Fils admire et s'émerveille devant son Père. La Sainte Trinité nous fait aussi deviner la joie, nous fait comprendre plutôt la joie des hommes à imaginer et à créer quelque chose de nouveau. C'est saint Augustin qui a développé l'analogie qu'on peut trouver entre le mystère trinitaire et la structure de l'esprit humain. En concevant des mots et des poèmes dans lesquels ils s'expriment, l'esprit humain ne peut s'empêcher de les regarder ensuite avec amour. Cette activité créatrice de notre esprit est en quelque sorte le reflet de l'acte éternel par lequel le Père engendre son Verbe et le contemple. Un artiste peintre me disait un jour qu'en regardant ses toiles, il comprenait mieux avec quel amour le Père ne cesse de s'extasier devant son Fils bien-aimé et tous ses autres enfants. Mais la comparaison est forcément imparfaite, car elle n'exprime pas l'élan dans lequel le Verbe, à son tour, s'extasie devant son Père. Le peintre aime sa toile, mais celle-ci n'éprouve aucune admiration pour le peintre qui a fait d'elle un chef-d'œuvre. Le mystère de la Trinité nous fait aussi comprendre la différence fondamentale qui existe entre dépendance et humiliation. Quand je reçois un cadeau de quelqu'un, je ne me sens pas du tout humilié de le remercier, surtout si je sens tout l'amour avec lequel il m'a fait ce cadeau. Ce sentiment de dépendance, de reconnaissance, existe en Dieu. Le Fils reçoit éternellement tout son être du Père, et il ne cesse de l'en remercier. Il ne lui est pas inférieur pour autant, car le Fils est aussi éternel, aussi intelligent que son Père, puisqu'ils ont depuis toujours la même et unique intelligence, la même et unique activité. Cela nous fait comprendre que nous devons et que nous pouvons recevoir beaucoup des autres et les en remercier énormément, sans nullement ressentir cette dépendance comme une humiliation. Enfin, le mystère de la Trinité nous fait comprendre ce que doit être l'idéal de toute communauté, l'unité dans la diversité. Les trois personnes divines réalisent éminemment le rêve de toute communauté humaine. Un pluralisme qui respecte la personnalité de chacun sans nuire à l'unité de l'ensemble. C'est l'idéal de tous les couples, par exemple, ne faire qu'un tout en restant deux. Ne tomber ni dans l'amour fusionnel, ni dans une simple coexistence plus ou moins pacifique. Ici encore, on comprend mieux ce désir profond du cœur humain si on le met en relation avec le mystère trinitaire. Les trois personnes divines ne forment littéralement qu'un seul être, et pourtant, elles ne sont pas des copies l'une de l'autre. On comprend alors pourquoi Jésus désire tant que ses disciples vivent dans le respect des dons de chacun et dans la volonté de ne faire qu'un. Car ses disciples ont ainsi une manière privilégiée de manifester le mystère trinitaire qu'il habite. C'est l'Esprit qui, dans l'Église, opère ce merveilleux équilibre entre le pluralisme et l'unité. L'Esprit Saint est à la fois la force centrifuge qui pousse les membres de l'Église à se disperser aux quatre coins de l'horizon et à s'y spécialiser, mais il est aussi la force centripète qui rassemble tous ses membres en un seul corps. Père, que tout soit un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé, dit Jésus dans sa célèbre prière sacerdotale qu'on trouve au chapitre 17 de l'Évangile selon saint Jean. Nous ne pouvons donc pas donner raison à Emmanuel Kant lorsqu'il affirme que le dogme trinitaire n'exerce aucune influence sur la vie des chrétiens. Voici ce qu'il écrit dans le Conflit des facultés. Du dogme de la Trinité pris à la lettre, on ne saurait absolument rien tirer pour la pratique, même au cas où l'on croirait le comprendre, et bien moins encore si l'on se rend compte qu'il dépasse tous nos concepts. Que nous ayons à honorer 3 ou 10 personnes dans la divinité, le novice l'admettra sur parole, avec une égale facilité, parce qu'il n'a aucune idée d'un Dieu en plusieurs personnes. Bien mieux encore, parce qu'il ne peut tirer de cette différence des règles différentes pour la conduite de sa vie. Eh bien, contrairement à ce que nous dit Kant, nous venons de voir qu'en nous révélant le mystère de sa vie trinitaire, Jésus nous fait comprendre la meilleure façon de vivre nos rapports interpersonnels à l'intérieur de toutes les communautés au milieu desquelles nous vivons.